ce qu'ils risquent, c'est des tortures. Et puis, il y a cette manière d'enfermer les gens, et particulièrement les chrétiens en Érythrée, c'est de les mettre dans des conteneurs métalliques. Donc, ils sont entassés dans des conteneurs métalliques. Vous savez, les conteneurs qui sont utilisés pour les transports maritimes. Hein. Donc, il y a très peu de possibilités de respirer, peu de bouches d'aération. Ils sortent très peu. Ils sont très mal nourris. Ils peuvent être également, donc, je vous disais, torturés. On parle beaucoup, on nous a beaucoup parlé de cette torture qui s'appelle l'hélicoptère. On vous met donc allongé, on vous attache les mains et les pieds dans le dos et on vous laisse là des heures et des heures, des jours, voire même des semaines, et jusqu'à ce que vous craquiez en fait. Hein. Et donc il y en a qui meurent effectivement. Le manque de soins, le manque de nourriture et puis la torture systématique quasi. Hein. Donc ça peut vraiment entraîner le décès de personnes qui ont été arrêtées juste parce que elles veulent se réunir pour prier, pour faire un culte un peu différent de ce qui est historiquement, ce qui a été fait historiquement dans le pays.
Alors justement, à ce propos, seules 4 entités religieuses sont autorisées, tolérées par l'État érythréen.
Il y a l'église orthodoxe, l'église catholique romaine et l'église luthérienne. C'est l'église orthodoxe qui est la plus implantée dans le pays et c'est une église qui marche quand même avec le pouvoir. Et dans certains cas, on a constaté qu'il y avait un partenariat dans le fait de pourchasser les chrétiens indépendants. Il y a dans cette église orthodoxe, ce qu'on connaît aussi hein, au sein de l'église catholique romaine, un mouvement de renouveau. Surtout des jeunes, ils sont touchés par ça. Ils veulent faire des cultes un peu différents, peut-être avoir plus de chants, avoir plus de proximité avec dans leur manière de faire le culte. Et ça, c'est très mal perçu par une partie du clergé orthodoxe qui s'allie avec le gouvernement pour les pourchasser et pour les arrêter. La principale source de persécution reste quand même le gouvernement qui est donc une dictature et qui ne supporte aucune voix dissonante dans son pays.
Pourquoi un tel acharnement, si j'ose dire, envers ces chrétiens des églises indépendantes? Est-ce que cette persécution les vise spécifiquement ou est-ce qu'elle peut viser également les autres religions et les autres chrétiens issus des églises reconnues?
Ce que le gouvernement surtout ne supporte pas, c'est que une dénomination sorte de son contrôle. Tant que les églises qui sont reconnues et également les autres religions qui sont reconnues, l'islam est reconnu, tant qu'il n'y a aucune voix dissonante, ça va. Les personnes qui vont pouvoir se retrouver vont pouvoir avoir leur vie de foi assez tranquillement. Mais dès qu'il y a une critique, et notamment ça a été le cas pour l'évêque Aboun Antonios, qui est un évêque de l'église orthodoxe qui, elle, est reconnue, qui en 2007 a critiqué en fait la manière dont le gouvernement arrêtait les chrétiens des églises indépendantes. Donc il a été destitué, il a perdu son statut d'évêque et il a été assigné à résidence. Et depuis 2007, cet homme, eh bien, il ne peut plus sortir de chez lui. Donc ça ne touche pas forcément les chrétiens indépendants, ça peut aussi toucher des églises qui sont donc reconnues, mais ça peut également toucher d'autres religions. Mais là, c'est plus d'un point de vue politique, en fait. C'est quand, par exemple, les responsables religieux vont essayer de critiquer ou vont essayer de faire entendre leur voix. Et alors là, c'est absolument pas accepté. Et là, effectivement, il y a aussi des musulmans qui se retrouvent en prison.
L'Érythrée, c'est une dictature extrêmement répressive. Le pays est verrouillé, la population vit sous un régime de terreur. Et cela se passe dans l'indifférence quasi générale. On a même l'impression que les gens ne sont pas forcément au courant de ce qui se passe.
Oui. Tout d'abord parce que c'est un pays qui est assez jeune, hein, qui a obtenu son indépendance en 1993. Et puis, il est possible aussi que ce désintérêt soit lié aux espoirs que cette indépendance a entraîné. Je me souviens, à cette époque, j'étais en école de communication et on parlait souvent de l'Érythrée et de cet espoir de démocratie, cet espoir de changement vers le mieux. Et quand on s'est rendu compte que finalement, ça s'est tourné vers une dictature, c'est comme s'il y avait eu une grosse déception. Il y a quand même, hein, il y a des aides, hein, la communauté européenne aide l'Érythrée, des millions d'euros qui sont donnés à ce pays pour le développement, donc il y a quand même une aide économique, même si c'est vrai qu'au point de vue politique, on n'en entend pas trop parler, peut-être qu'il n'y a pas non plus énormément d'enjeux géopolitiques dans cette partie du monde, et pourtant il s'y passe vraiment des choses terribles, et effectivement il y a toujours cet état de guerre, alors que normalement la guerre est terminée officiellement, mais il y a toujours d'énormes tensions entre l'Érythrée et l'Éthiopie. Et le gouvernement impose d'ailleurs un service militaire très long. Les hommes doivent passer près de 20 ans de leur vie au service militaire en Érythrée, c'est-à-dire que de 18 à 40 ans, ils sont censés faire leur service militaire et les femmes, elles, doivent passer une dizaine d'années de leur vie sous les drapeaux de 18 à 27 ans. Donc il y a énormément d'Érythréens qui ne veulent plus faire ça, ils ne comprennent pas parce que la guerre est terminée et ils veulent s'enfuir. Et c'est là qu'ils sont arrêtés et eux aussi envoyés dans des camps et jusqu'à ce qu'ils aient fini leur service militaire en fait. Donc effectivement, c'est un gouvernement, donc comme je vous disais, qui veut tout contrôler, même du point de vue économique. Pour les investisseurs étrangers, c'est vraiment compliqué d'investir dans ce pays.